RFI, il est 4h à Paris, 2h en temps universel, c'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
Et les premières tendances des législatives anticipées au Canada, l'actuel Premier ministre, le libéral Marc Carney, est le grand favori. Un vote dans lequel s'est invité Donald Trump, on en reparle dans un instant. L'autre titre, c'est l'électricité qui revient peu à peu en Espagne comme au Portugal. Pas encore de retour à la normale complet à l'heure actuelle. Et l'origine de la gigantesque panne de courant qui a débuté ce lundi midi n'est toujours pas connue. Un rapport révélé par Amnesty International ce mardi, jamais les droits humains n'ont été autant bafoués à travers le monde qu'en 2024. Les détails dans ce journal. Et Vladimir Poutine annonce une trêve durant 3 jours sur le front ukrainien. Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation. 22h à Ottawa et l'heure est au résultat des élections législatives anticipées au Canada. Les bureaux ont fermé leurs portes. Depuis quelques minutes, début du décompte des voix en Ontario et au Québec, les deux provinces les plus peuplées. Et d'après les premiers chiffres et les premières informations données par Marine de la Moissonnière, envoyée spéciale pour RFI sur place, c'est le camp libéral qui remporte les premières voix. L'actuel Premier ministre Marc Carney fait figure de favori face au conservateur Pierre Poilievre. Un nom ne figurait sur aucun bulletin de vote et a pourtant été dans toutes les tête, celui de Donald Trump qui a véritablement hanté la campagne. Le président américain qui lundi a de nouveau parlé d'effacer la ligne artificielle qui sépare les deux pays, estimant que cela ne pouvait apporter, je cite, que du positif. Autre grand titre de l'actualité, les suites de la gigantesque panne d'électricité qui a frappé la péninsule ibérique ce lundi midi, suite mais pas fin. En Espagne continentale, l'électricité a été rétablie à plus de 82%, toujours pas de retour total à la normale, donc toutes les hypothèses restent envisagées. Aucune piste n'est écartée concernant l'origine de ce blackout. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. L'Espagne, comme le voisin portugais, cherche donc à comprendre comment cette panne géante a pu se produire. Elle a en tout cas semé pagaille et panique. La surprise passée, la situation n'a pas eu trop de conséquences dans certains endroits, heureusement grâce aux générateurs électriques, à l'image de l'hôpital universitaire de Tolède, comme en témoigne Antonio Martinez, le chef du service pédiatrique joint par Juan Gascón.
Pour le dire simplement, chaque prise d'électricité est plus ou moins prioritaire dans l'alimentation électrique. Il y a des prises dont l'hôpital garantit qu'elles fonctionneront toujours, quoi qu'il arrive. Il s'agit par exemple des unités de soins intensifs, des ventilateurs, du système de surveillance, des machines qui permettent par exemple une assistance cardiovasculaire. Un approvisionnement permanent est garanti car il est alimenté par des batteries et il n'y a rien à démarrer. Mais il est impossible d'alimenter l'ensemble de l'hôpital, car la consommation est gigantesque. Ce n'est pas possible. Il y a donc un deuxième niveau de sécurité qui est garanti par des générateurs qui démarrent immédiatement. À l'heure actuelle, tout l'approvisionnement en électricité de l'hôpital est garanti par le biais de ces générateurs pour que cela n'affecte pas les patients qui sont dans un état critique et qui dépendent donc de ces systèmes.
Et du côté du Portugal, les autorités estiment que l'origine de cette panne pourrait bien être en Espagne. L'enquête se poursuit. Le Portugal, qui a lui aussi été fortement impacté et où la situation revient progressivement à la normale. Les droits humains n'ont jamais été autant bafoués partout dans le monde qu'en 2024. C'est ce que révèle un rapport d'Amnesty International qui est rendu public ce mardi. Sans surprise, c'est dans la bande de Gaza que la situation est la plus dramatique, alors que la communauté internationale semble impuissante. Pierre Olivier.
Selon Amnesty International, Israël serait en train de commettre un génocide des Palestiniens à Gaza. Une déferlante contre les droits humains les plus fondamentaux. Émeric Eluin, chargé de plaidoyer armes et conflits chez Amnesty France.
Il n'y a pas d'amélioration. On a une zone qui est bouclée, qui est fermée. On ne peut pas s'en échapper et qui est bombardée en permanence. Et pour lutter contre le Hamas, Israël a fait le choix d'utiliser sur cette zone densément peuplée, d'utiliser des armes à large rayon d'impact. Donc, par leur nature et leur puissance, il est impossible de faire la distinction entre cibles civiles et cibles militaires. En fait, ce à quoi on assiste, c'est un génocide. Oui, c'est un génocide.
Le rapport sur les droits humains souligne également l'absence de réaction simultanée et efficace de la communauté internationale. Pour Anne Savinel Barras, présidente d'Amnesty France, cette communauté n'assume pas ses responsabilités.
Ce qui nous inquiète, en fait, c'est qu'il y a des violations flagrantes du droit international humanitaire à Gaza et personne ne bouge. Et pendant ce temps-là, la population meurt. Et ça, je trouve ça véritablement le drame de cette époque.
Enfin, l'ONG redoute aussi le fait que ce manque d'actions internationales face à l'horreur de Gaza ne rende légitime, dans un futur proche, d'autres situations du même genre.
Pierre-Olivier pour RFI. Une tentative de manipulation, voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie l'annonce par Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu entre le 8 et le 10 mai, et ce à l'occasion des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Le président ukrainien propose plutôt à la Russie d'instaurer une fin des combats immédiate, globale, inconditionnelle d'au moins 30 jours. Donald Trump exhorte la Russie et l'Ukraine à conclure un arrêt des combats permanents et un accord de paix. Toujours à propos des Russes, en Centrafrique, on connaît l'immense potentiel de la mine d'or de Ndassima, dans le centre du pays, passée fin 2019 sous le contrôle d'une compagnie liée au groupe de mercenaires Wagner, qui en a fait sa première source de financement dans le pays. Mais c'est désormais sur un autre site que les Russes investissent fortement. Le groupe d'enquêteurs All Eyes on Wagner, qui surveille les actions de la nébuleuse, a travaillé sur le développement de la mine d'Idéré dans l'ouest du pays, près de la frontière camerounaise, et révèle dans sa dernière publication des similitudes avec des opérations aurifères menées par une autre entreprise détenue par des Russes, mais cette fois en RDC. François Mazet.
Excavateurs, pistes, miradors, baraquements militaires et tranchées. Les images satellitaires sur lesquelles s'appuie All Eyes on Wagner montrent la progression de l'activité sur le site d'Idéré entre décembre 2023 et février 2025. Cette mine a fait l'objet d'un permis signé début janvier 2024 au profit d'une entreprise baptisée Heavy Industrial. Quelques mois plus tôt, en mai 2023, cette compagnie signait une convention de partenariat pour 25 ans avec l'État, deux mois à peine après son inscription au registre du commerce de Bangui, selon les documents consultés par les auteurs. Ceci pointe un régime fiscal très favorable à l'entreprise, pratique habituelle pour les sociétés liées au groupe Wagner. Derrière Heavy Industrial, une directrice centrafricaine également à la tête d'une autre entreprise, General Resources, créée à la même époque, une gérante de paille, affirme les enquêteurs, là encore une habitude pour les sociétés liées aux intérêts russes qui exploitent or, diamants et bois en Centrafrique. Reste à savoir où, comment et au profit de qui est vendu l'or d'Idéré. All Eyes on Wagner souligne qu'en RDC voisine, des Russes ont monté une entreprise du même nom et qu'ils sont également propriétaires d'une société qui a déclaré pour près $1,5 million de dollars d'or vendus aux Émirats Arabes Unis depuis 2022.
Un drame ce lundi dans le nord des États-Unis. Un automobiliste a percuté une garderie à Chatham, une petite ville située dans l'Illinois. Le dernier bilan fait état de 4 morts, dont des enfants. La France enregistre une augmentation des actes antisémites sur son territoire, et ce depuis les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas en Israël. Pour y faire face, Aurore Berger, ministre de la lutte contre les discriminations, a lancé les assises de la lutte contre l'antisémitisme, et cela a débouché sur la production d'un rapport remis au gouvernement. Il met l'accent sur deux volets, la justice, l'éducation. Lucie Vouzelot, professeure de géographie dans un lycée, a participé à l'élaboration du rapport. Elle partage son expérience.
Moi-même, en tant qu'enseignante, j'ai été confrontée à des paroles antisémites depuis longtemps, en réalité, de milieu des années 2000. Ce ne sont pas des propos qui sont quotidiens, on va dire. Ça revient au moment des cours sur la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être aussi dans des cours qui ont lié, par exemple, au Moyen-Âge. Depuis le 7 octobre, le terme explosion, flambée, vague revient quand même beaucoup dans les témoignages d'enseignants ou d'inspecteurs d'académie qui font de la veille et de l'analyse sur le sujet. Une des premières préconisations que l'on a fait au sein du groupe de travail, c'est créer un institut de recherche et de formation qui permettent de former les enseignants, mais aussi les référents académiques qui travaillent sur ces sujets-là, les chefs d'établissement qui, eux, recensent les faits qui leur sont signalés, parce qu'on voit aussi, en fait, la difficulté à comprendre, à analyser, à caractériser réellement ce qui relève de l'antisémitisme ou pas. Là, la formation, en fait, la connaissance, vraiment, on y a répondu dans ce groupe de travail par l'action de la connaissance, elle nous a paru fondamentale.
Voilà pour ce rapport qui met donc l'accent, je vous le rappelle, sur deux volets, la justice et l'éducation, d'autant que 42% des auteurs d'actes antisémites ont moins de 35 ans. Propos recueillis pour RFI par Lou Ecal. Du football et le retour de la Ligue des Champions, c'est ce mardi soir, place aux demi-finales. Allez, Arsenal affrontera ainsi le Paris Saint-Germain. La suite mercredi soir avec la rencontre Barcelone-Inter Milan. Des soirées foot que vous suivrez évidemment en écoutant RFI Radio Foot International. Et puis tenez, autre info foot, alors elle n'est pas confirmée. Carlo Ancelotti va quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid, et ce dès la fin de saison. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs médias espagnols. L'Italien pourrait ainsi prendre la tête de la sélection du Brésil. Encore une fois, rien de confirmé. Enfin, vous vous en souvenez sans doute, il a été le directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il, c'est Thomas Joly, récompensé lors de la 36e nuit des Molières en France ce lundi soir. Molière d'honneur. Voilà pour ce journal. Vous écoutez RFI, il est 4h10 du matin à Paris.